Le CF Montréal débutait officiellement sa saison hier après-midi en affrontant le Toronto FC. Dans la saison 2020, Toronto avait remporté 3 des 4 rencontres de saison régulière contre Montréal. Mais là, cette année, on a 2 clubs qui ont un nouvel entraîneur chacun. Et chez le CF Montréal, il y a 10 nouveaux venus. Alors, on avait vraiment un premier match qui allait être rempli de surprises de part et d'autre. Et parmi ces surprises, il y a le fait que Montréal l'ait emporté 4-2. On est avec Vandril Lefebvre. Salut, Vandril.
Salut, Evelyne.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui. Je dois te partager d'entrée de jeu que le match d'hier a été mon plus beau moment sportif du week-end. Avec tout ce qu'on a entendu cette semaine sur le club montréalais, là, les pronostics qu'ils plaçaient 27e sur 27, des analystes qu'ils qualifient la pire équipe de la Ligue, moi, je m'attendais à tout sauf cette marque finale-là.
Mais tu sais, Evelyne, on va faire la part de deux choses. Tu sais, quand on analyse les forces en présence et moi, je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit d'avoir analysé non seulement l'effectif, mais le contexte aussi oui. Du club, et de dire sur les forces en présence, on est plutôt pessimiste. Ça ne fait pas foi de ce qui va arriver, mais ce constat-là, je ne peux jeter la pierre à personne de l'avoir fait. Maintenant, sur le match d'hier, c'est quasi un sans faute de la part du club. C'est un match maîtrisé, ils ont eu la possession, ils ont eu les actions, ils ont eu les buts. Il n'y a pas grand-chose à dire hier. Pour une première en plus, c'est vraiment une copie presque parfaite.
Mais quand tu dis les forces en présence, est-ce que tu fais référence aux 3 piliers manquants chez Toronto? Là? Parce que c'est ça, il y a le défenseur central Chris Mavinga qui n'est pas là, le milieu terrain Alejandro Pozuelo, l'attaquant Jozy Altidore. Fait que ça, c'est quand même trois piliers, justement, comme je le disais. C'est ce que tu veux dire? Ça fait la différence?
Ouais, ça fait la différence. Puis il y a aussi le fait qu'on avait beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est sur le volet Toronto, mais il y avait aussi beaucoup d'incertitudes sur le volet du club de foot Montréal, avec tous ces nouveaux, tu le disais dans ton amorce. On savait pas trop à quoi s'en tenir, surtout qu'il y avait eu que très peu de matchs de préparation. Aucun sur lequel nous, partie prenante externe, on avait eu accès dans le contenu pour se faire une tête là-dessus. Donc, je dirais qu'on partait vraiment dans le flou et on a été tous agréablement surpris. Mm-hmm. C'est le terme.
Oui, parce que, tu sais, moi, ce que j'ai aimé le plus, au-delà du résultat, c'est la manière dont ça s'est fait. Tout le monde a contribué. C'était vraiment un effort collectif et le jeu a dépassé les statistiques. Et ça, j'adore quand ça arrive. Les deux équipes ont fini le match avec le même nombre de tirs au but, le même temps de possession de ballon, mais le CF Montréal a été dominant et ça, je trouve que ça veut dire beaucoup.
Mais ça veut dire énormément, surtout dans un... Écoute, c'est un premier match d'une saison particulière et c'est un derby. C'est toujours des matchs particuliers à jouer. On sait que Toronto, depuis plusieurs années, c'est un peu la bête noire de Montréal. On a beaucoup de mal à se défaire de cet adversaire qui, plus est, a une dynamique et un collectif assez rodé, assez fluide depuis au moins 5-6 ans. Même s'ils ont changé d'entraîneur, on voit qu'année après année, c'est souvent la même manière de jouer qui revenait. Alors que du côté de Montréal, il y avait, comme je le disais, c'était beaucoup d'incertitudes. On était vraiment dans le flou. Et moi, je trouve que c'est de bon augure. Puis je suis extrêmement content, d'autant plus pour Wilfried Nancy. C'est sûr qu'il était attendu un petit peu au tournant comme première et on peut pas dire que ça a été une première ratée de ce côté-là.
Justement, Wilfried Nancy, hier, il a opté pour une formation 3-4-1-2. Est-ce que tu penses que ça va évoluer en cours de route, ça, ou c'est vraiment le système de jeu qu'il préconise avec les effectifs qu'il a?
Je pense que le système, c'est une manière de voir les choses. Je pense que ça, c'est celui avec lequel il va vouloir fonctionner jusqu'à preuve du contraire. Mais en réalité, le système, il est lié aux joueurs que tu as sous la main d'une part. Ça évoluera chaque week-end, évidemment, parce que au gré des blessures, au gré des performances. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est qu'indépendamment du système, c'est-à-dire le système, finalement, ça définit quoi? Ça définit comment on défend et quelle est la base de comment on attaque. Mais une fois que le match est lancé, là, il y a des principes de jeu qui, indépendamment du système, que ce soit 3 défenseurs, 5 défenseurs, 4 défenseurs, ce seront les mêmes. Et moi, je m'attends et j'espère que la manière de jouer du club de foot Montréal hier, indépendamment du système, c'est une manière de jouer qu'on va voir se retranscrire chaque week-end.
Moi, j'avais hâte de te parler de Mason Toy et j'ai hâte de t'entendre sur lui. J'ai été tout d'abord étonnée de le voir sur le 11 partant. J'ai trouvé la décision audacieuse parce que en 2020, il a été quand même décevant. Cette année, par contre, il a eu un super bon camp d'entraînement. Il a même inscrit 2 buts, une passe décisive au dernier match préparatoire, mais il est quand même jeune. Il y a plusieurs éléments techniques de lui qu'on connaît pas. Alors, je trouve que c'était une belle marque de confiance que le club lui portait de le mettre sur le 11 partant et bang, il marque le premier but du match avec même pas quoi, 2-3 minutes de jouer. Qu'est-ce que tu as pensé de lui? Je l'ai trouvé extraordinaire.
Écoute, c'est extrêmement intéressant ce sujet-là, Mason Toy, parce que c'est vrai que sur la base de ce qu'il nous a montré en 2020 sous les couleurs du bleu, blanc, noir, ça n'a pas été fameux. Ça n'avait pas été fameux parce qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, il y avait des mauvaises décisions. Quand il était titulaire, il ratait sa chance. Quand il rentrait, il ratait sa chance. Maintenant, c'est un jeune joueur pour lequel on a payé un certain montant d'argent en gamme ou en panne, je ne me souviens plus, mais de l'ordre de quasiment $500,000. Donc c'est forcément un joueur qui vient avec des attentes et un statut. Il a eu la chance hier, pour diverses raisons, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore prêts physiquement, de commencer ce match-là. Et écoute, oui, je partage ton point de vue. Il a extrêmement bien joué, très disponible de haut but. Il a fait les courses dans les couloirs pour permettre à ses équipiers de le trouver dans l'intervalle et attendre que le bloc remonte. Et il a marqué un but au bout de 2 minutes qui lance le match. C'est pas rien. Dans un match, un premier match d'une saison, être capable d'ouvrir le score au bout de 2 minutes, ça met ton équipe dans des dispositions qui sont plus que positives.
Il s'est blessé, par exemple. Hein? Il est comme parti en deuxième. Est-ce que tu sais, sais-tu ce qu'il a? On a-tu une mise à jour sur lui?
Non, on n'a pas. J'ai pas vu de mise à jour passer, mais bon, il y avait rien de particulièrement inquiétant au regard de la gestuelle que j'ai pu voir. J'espère qu'on nous donnera des nouvelles et que c'est rien de grave, parce que l'une des forces du club de foot Montréal cette année, Evelyne, c'est probablement justement la profondeur. Il y a peut-être pas, à part Romel Kyoto qui en attaque, je pense, est au-dessus du lot. Il n'y a pas de joueur qui est fondamentalement au-dessus. Et les autres, par contre, permettent d'amener une dynamique de concurrence. Donc, que ce soit Mason Tuck, que ce soit Joaquin Torres, que ce soit d'autres joueurs qui peuvent rentrer, il y a cette profondeur-là qui fait que si tout le monde est en santé, je pense qu'on a une dynamique de rotation qui sera intéressante du côté de l'attaque du CF Montréal.
Et parle-moi justement de Romel Kyoto. Au début de la rencontre, je l'ai trouvé un peu hésitant, mais il s'est bien racheté là, avec un but sur une course d'une vitesse de fusée, avec un tir hyper bien placé. Et on rappelle que ça a été lui le meilleur marqueur de l'équipe l'an dernier avec 8 buts. Là, quel genre de saison tu lui prédis cette année dans le même ordre?
Écoute, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Pour bon nombre de joueurs, pour différentes raisons, ils sont tous attendus au tournant. Romel Kyoto, pourquoi il est attendu au tournant? Parce qu'il a fait une saison 2020 qu'on pourrait qualifier de, pas dire extraordinaire, mais de très haut niveau. Et il a eu l'opportunité, dans le même temps, de renouveler un contrat assez lucratif en conséquence. Donc, il est forcément attendu au tournant là-dessus, parce que la dynamique offensive du club de foot Montréal repose sur ses épaules et que maintenant, il a le contrat qui lui confère aussi ce statut-là de joueur clé offensif. Hier, c'était pas un match nécessairement facile pour lui. Il y a un travail ingrat, souvent, qui vient avec Romel Kyoto. On lui demande de courir des ballons, de garder, d'utiliser sa force. Et son but, c'est vraiment de Romel Kyoto tout cracher. C'est-à-dire, on lui donne pas nécessairement beaucoup de chance. Il prend l'espace, persévère, et dans un angle fermé, on voit vraiment un missile partie supérieure qui, dans le haut de la cage, finalement, c'est difficile pour un gardien d'intervenir, parce que la priorité de Bono à ce moment-là, c'est couvrir ses angles. Lui, la seule chose à laquelle il pense, c'est je veux pas me faire battre à terre premier poteau. Mais là, le tir est venu tellement vite et tellement fort à une hauteur que c'était très difficile pour Bono d'intervenir, et 2-0 dans un match. On parlait du but de Mason Toy qui lance le match, mais le but de Romel Kyoto, il casse un petit peu les jambes de Toronto, ouais, parce que tu rentres à la mi-temps avec un avantage de 2-0.
Et là, parlons de Clément Diop. C'est un gardien, mais c'est un joueur intéressant à analyser, je trouve. Il est excellent en jeu. C'est un gars qui peut faire des arrêts miracles. Mais son défaut, je trouve que c'est les balles arrêtées. Je le trouve souvent hésitant aussi sur les balles arrêtées. Et hier, j'ai pas trop vu ça pendant le jeu. Je trouve que ça a bien été. Et là, il y a un tir de pénalité de Toronto. Il fait l'arrêt, mais il a bougé un petit peu trop vite. Alors, le tir est repris. Toronto change de joueur. Et là, Toronto marque, c'est 2-1. Donc, c'est encore une balle arrêtée. C'est encore une erreur de Clément Diop. Et c'est un but qui met la marque à 2-1, qui aurait vraiment pu changer l'allure du match.
Écoute, Clément Diop, les gardiens modernes, maintenant, ils sont analysés selon différentes composantes de leur jeu. Plus juste ce qu'ils font avec leurs mains. On analyse aussi ce qu'ils font avec leurs pieds, parce qu'ils sont devenus vraiment des 11e joueurs dans la relance. L'une des forces de Clément Diop, c'est justement sa capacité à vouloir jouer et d'être toujours présent dans la relance pour ses coéquipiers. Maintenant, avec ça, vient une autre dynamique aussi. C'est que c'est pas nécessairement le gardien le plus imposant physiquement. Et c'est sûr que quand il y a des coups francs, quand il y a des corners, ben c'est un gardien qu'on se demande toujours s'il sera capable d'aider ses défenseurs en sortant, en boxant le ballon, en captant le ballon, pour enlever de la pression sur les épaules de ses défenseurs à devoir nécessairement gagner leur duel. Pour ce qui est du pénalty, Evelyne, écoute, pour moi, le blâme revient plus à Joel Waterman là-dessus, parce que la faute qui a mené au pénalty, il faut revenir surtout à ça, elle était totalement évitable si tactiquement, il était mieux placé avant que l'action se déroule. Il a accusé un retard en amont, il a décidé de le rattraper en faisant une faute dans la surface. À partir de là, écoute, Merlin, un pénalty, là, c'est du 50-50, et je suis généreux en disant ça, parce qu'en réalité, c'est avantage au tireur, au soccer, c'est
avantage au tireur. Mais t'as raison, j'attribue pas du tout la faute de ce but-là au gardien, là, ça c'est clair, sauf que je trouve que c'était quand même une démonstration d'une autre balle arrêtée qui a joué contre, tu sais. Il a quand même bougé trop vite, tu sais, c'est encore une erreur qui a permis à Toronto de reprendre son tir, tu sais.
Non, c'est sûr que, et puis ça c'est les nouvelles règles de la FIFA qui ont chamboulé un petit peu le monde du soccer depuis 2-3 ans, c'est que désormais on est totalement intransigeant sur les gardiens de but qui n'ont pas un pied sur la ligne au moment où ils s'élancent pour arrêter un pénalty. Et avec la vidéo maintenant, tu peux plus passer entre les mailles du filet parce que l'arbitre, même s'il le rate en temps réel, il aura accès à la vidéo et automatiquement ce sera la sanction tombera, c'est qu'on fera retirer. Et quand tu fais retirer, tu donnes une chance de plus à un tireur. Et là en plus, je pense que Toronto a été, pour moi en tout cas, intelligent là-dessus, c'est qu'ils ont changé de tireur immédiatement.
C'est ce qu'il fallait
qu'ils fassent. Pour pas rentrer dans une spirale éventuellement négative, ils ont changé de tireur.
Totalement. OK, on termine ça dans quelques instants, mais je veux quand même, il y a Georgi Mihajlovic aussi là, dont il faut parler absolument. C'est un des nouveaux venus avec le CF Montréal. Il a été acquis de Chicago cet hiver. Hier, il a marqué le 4e but de l'équipe et sur son but, il a vraiment fait mal paraître la défensive adverse. On a vu là, de quelle domination il est capable. Et ce que j'ai aimé, c'est que son but, c'est sur une passe d'Éric Hurtado, qui est une autre nouvelle acquisition. Moi, je trouve que les nouveaux éléments semblent vouloir être concluants pour le CF Montréal cette année.
Absolument, bon point, Evelyne. Puis on va se concentrer aussi sur Georgi Mihajlovic à l'intérieur de ta question. Georgi Mihajlovic, pour moi, c'est à l'intérieur de la MLS, toute proportion gardée, évidemment, mais c'est un petit phénomène que le club de foot Montréal est allé chercher. Malheureusement, je dirais, dans ce début de carrière, ce qui lui manque, c'est la régularité, la constance, être capable semaine après semaine de répéter le même type de performance au même niveau. Très souvent, ce qu'on a vu de Georgi Mihajlovic, c'est des éclairs. C'est une capacité à faire la différence de manière ponctuelle dans des moments donnés d'un match. Le problème pour ce type de joueur, c'est que quand on est un entraîneur, si un Georgi Mihajlovic, on se demande si la performance de samedi prochain, ce sera un 4 sur 10 ou un 8 sur 10, ça c'est problématique et c'est un petit peu ce qui l'accompagne depuis le début de sa carrière. La performance qu'il nous a donnée ce samedi, c'est un bon 8 sur 10, là. C'est une très bonne performance. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit capable de le répéter, amener cette récurrence, cette régularité dans son jeu, ça lui fera franchir un palier. Et si c'est le cas, les clés du jeu qu'on donne à un joueur comme ça, je pense que le club de foot Montréal est entre de bonnes mains.
Très bon point. Merci, Vandril, pour tes lumières. Toujours agréable de te parler. Et là, le prochain match, c'est à Nashville samedi prochain, donc on se parle potentiellement dimanche.
Absolument. Merci.
Salut
à toi, Evelyne.
Bonne semaine. Bye. Après la pause, on va terminer notre première heure avec le tour de l'actualité sportive. On va parler un petit peu de Jeux olympiques, de records dans la LNH, un petit peu de tennis, d'athlétisme, un peu de tout. Restez là.